Maintenant, on s'en va à Maria. Je ne sais pas s'il fait aussi chaud qu'à Montréal. Elle va nous le dire dans quelques instants. Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène. Oui, il fait très chaud, mais je ne sais pas si c'est comme Montréal. Sûrement pas. Il y a quand même toujours l'air de la mer ici qui rafraîchit l'air, là, mais oui, nous sommes dans une petite canicule.
Bon, alors on est ensemble là-dedans, dans cette aventure qui ne durera pas. On est dans une vague et vous avez lu, même malgré la chaleur, « Ce qui nous dévore », quel titre, par Marie-Hélène Sarrazin.
Oui, paru aux éditions Tête Première. C'est un petit roman de 163 pages. C'est une autrice que j'avais découverte l'année dernière, là, quand j'ai lu son roman « 12 arpents ».
Oui, je me souviens très bien. Vous l'aviez aimé.
Ah, beaucoup. C'est un livre, d'ailleurs, qui s'est trouvé en liste pour le prix des libraires dans la première sélection. Puis, il était question, dans ce livre-là, d'un retour à la campagne et de la protection du territoire. Puis, cette fille a publié la poésie aux éditions des Forges, trois recueils où les titres nous inspirent déjà, là, avec « Géographie en courte pointe »,« Maison transatlantique » et « Nos banlieues » nous indiquent que déjà, elle est préoccupée par l'occupation du territoire, les racines. Puis, bon, cette fille est allée étudier à Montréal, sans doute, et est retournée elle-même dans la région de la Naudière il y a quelques années, où elle enseigne au cégep de Joliette. Donc, sans être la suite de ce roman-là, on est dans le même univers. Puis, il y a même deux personnages qui étaient très drôles. C'était les deux sœurs d'Aou, qui étaient deux commères, qui racontaient des histoires. Bien, ils sont revenus là-dedans. Et je dirais qu'elles incarnent l'aspect littérature orale. Parce que, bon, évidemment, dans son écriture, il y a une influence de la poésie, puisqu'elle a publié de la poésie. Puis, puisqu'elle enseigne la littérature au cégep de Joliette, bien, la littérature est toujours présente dans le livre de manière plus ou moins importante. Et puis, ben, on sent que...
Qu'est-ce que vous voulez dire que la littérature est présente dans le livre?
Ben, par exemple, la fille, elle est prof, elle va enseigner dans un cégep, elle est libraire à 16 heures et elle fait la lecture à son grand-père qui est atteint de maladie d'Alzheimer.
D'accord.
Donc, cette jeune fille, Marine, est comme l'incarnation de l'autrice, on peut dire ça. Et puis, bon, ben, le livre est présent parce que parfois, ben, son conjoint, par exemple, qui est un routier qui se promène avec un grand camion un peu partout dans la province, ben lui, il lit Serge Bouchard, puis il lit de la poésie. C'est quand même pas rien.
Donc, on évoque des titres aussi.
Oui, oui. Ouais. Puis elle, par amour pour son conjoint, elle a lu tout le livre, c'était au temps des mammouths laineux, de Serge Bouchard. Puis là, comme ça, lui, il peut entendre sa blonde lire ce livre-là quand il est au loin.
Donc, c'est donc charmant.
Oui, donc les mots sont importants. Et ces deux personnages des sœurs d'Aou, puis il y a une espèce de magie dans le livre qui m'ont fait penser un petit peu à Fred Pellerin, qui est quelqu'un de la Mauricie aussi. Par exemple, ces deux sœurs-là qui inventent des histoires sont des personnages démesurés un peu à la manière de ces personnages à lui. Et puis, bon, ben, on sent très bien la littéraire en elle. Bref, le roman est très intéressant. Il n'est pas long et puis il est passionnant. Parce qu'au début, la première partie qui est très courte, débute où Madeleine, la femme de Siméon, trouve son mari mort sur le carrelage de la salle de bain. C'est lui qui a la maladie d'Alzheimer et il s'est suicidé, on pense. Bon. Là, il y a comme l'entrée au salon mortuaire, puis tout de suite, on passe, on comprend que tout le monde va mal, là, mais on passe au deuxième, je dirais la grande partie du roman, c'est le centre, là. Et là, dans cette deuxième partie, on apprend à connaître les personnages au passé et au présent. Puis la dernière partie, bien, c'est la fin des funérailles et le dénouement. Donc, c'est bien fait, ça se déroule entre Montréal et la Naudière dans deux époques. Le passé des personnages et leur rancœur, leur regret, leur amertume de ne pas avoir vécu la vie qu'elles auraient espérée. Alors, il est là-dedans, bien sûr, question de la maladie d'Alzheimer héréditaire, parce que lui, il a le héros Siméon, il l'a de son père qui a eu ça aussi, mais des proches aidants qui sont épuisés. C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui, la nuit, se lève parce qu'il est perdu, fait du bruit, brise son sommeil. Il est question de maternité, parce que la petite fille qui vient lui faire la lecture va être enceinte à un moment donné. Question de territoire, d'enracinement qui est à la fois symbolique, les racines d'où tu viens, mais les racines des plantes et des arbres, parce que la nature est partout, les plantes sont partout. D'ailleurs, la femme héroïne s'appelle Madeleine Plante, et elle vole des plantes un peu partout, oui, au jardin botanique, entre autres. Particulièrement, ce qu'elle aime, c'est les plantes carnivores. Et donc, et ça va envahir l'appartement où elle vit, et ce qui fait que son mari, atteint d'Alzheimer, se sent complètement envahi, et il souffre beaucoup. Alors donc, il y a une relation amour-haine entre eux, parce que oui, elle l'aime beaucoup, mais il a proposé une vie qui n'est pas la sienne. Elle vient de la région de la Naudière, et il l'a demandé en mariage, puis elle lui a dit « éloigne-moi de mon père ». Alors lui, il est allé vivre à Montréal, puis avec l'argent de l'héritage de sa famille, il lui achète une fleuristerie, une boutique de fleurs. Et comme il travaille comme policier, ben tous les crimes, puis les meurtres, puis tout ça, les morts, ben il envoie ça. Fait qu'elle a fait des couronnes mortuaires essentiellement. Ce qui
n'est est-ce qu'elle s'en fait voler parce qu'elle vole au jardin botanique?
Non, elle fait ça très discrètement. Et puis là,
oui, mais sa boutique, elle ne souffre pas de quelqu'un qui fait comme elle ailleurs?
Ouais. Non, non. Et puis elle contrôle tout, les finances, les entrées, puis elle est très calculatrice. Puis, elle, au fond, c'est pas ça qu'elle voulait. Dans la vie, elle aurait aimé avoir un magasin de fleurs odorantes. Elle souffre beaucoup. Elle dit, quand elle se marie, je la cite, « Madeleine voulait s'arracher le paysage des yeux pour ne pas mourir sur le champ. Un jour, elle reviendrait avec ou sans Siméon. » Et plus tard, elle dit, « Madeleine s'enracinerait ailleurs, dans un village entouré d'arbres et de champs et de montagnes, où elle planterait ses fleurs, elle ouvrirait une parfumerie et respirerait enfin. » Donc, elle s'est fait prendre dans cette proposition pour s'éloigner de son père, mais trop, elle ne supporte pas vraiment la ville. Et par moments, dans son exaspération de s'occuper d'un malade dans la maison, je cite, « Dans sa tête se forme une scène irrévocable qui rejouera en boucle. Siméon, sous le fait des somnifères, s'enfonce dans le sommeil. Madeleine pose un oreiller sur son visage, bloque la respiration, attend, reprend l'oreiller, le pose à côté de la tête de son mari, s'allonge et s'endort, enfin légère. » Donc, on peut penser qu'elle aurait voulu
étouffer son mari. Ouais.
Oui, pour survivre à ça. Elle a eu une seule fille qu'elle ne voit pas beaucoup et une petite fille qui vient de plus en plus chez elle pour s'occuper du grand-père parce que elle est enceinte et son mari est toujours sur la route, donc elle s'ennuie un petit peu. Puis son mari, il a une sœur qui s'appelle Suzanne, qui est très frustrée de ne pas avoir eu la maison familiale alors qu'elle a pris soin des parents jusqu'à leur mort. Mais lui a préféré la vendre et avec l'argent, acheter une boutique de fleurs à sa femme. Donc tout ce monde-là est frustré. Ils ont pas la vie qu'ils ont désirée. Et elles vont être tenaces et elles vont être fortes. Puis elles vont arriver à leur but, plus ou moins évidemment, avec le temps. Mais ce qui est beau, c'est que finalement, ce sont les personnages féminins qui sont très forts là-dedans et qui tiennent à leurs rêves, à leurs racines aussi. Ils sont très fiers quand elles retournent dans leur village. Et bien sûr, il est question de tous les problèmes que les régions vivent. Et puis, ce qui est très drôle, c'est le réalisme magique qu'elle va attribuer à des personnages. Par exemple, Madeleine qui vole des plantes carnivores, ben il y en a plus en plus dans la maison, puis ça comme plus de bon sens, c'est trop. Et Suzanne, celle qui est la sœur frustrée de ne pas avoir eu la maison familiale, ben quand elle vient en colère, elle provoque des inondations. Alors là, il y a de l'eau partout dans le village, et puis là, ben les gens sont chassés des plages parce que à Saint-Gabriel de Brandon, puis dans la Naudière, il y a beaucoup d'endroits avec des belles plages. Là, ça y est, les chaises transat sont complètement inondées. Et quand elle se calme, les eaux se retirent. Alors, c'est très intéressant parce que ça crée une image poétique de
oui,
la colère.
Il y a du réalisme magique là-dedans.
Oui, puis les larmes, au fond, en quelque sorte, qui sont symbolisées par ça. Les émotions, finalement, suivent la nature, si on peut dire, des personnages. Exemple, la jeune Marine, ben, elle se fait construire une maison, puis elle est enceinte, mais elle va perdre le contrôle un petit peu de ce qui se passe parce que elle en a trop, puis elle est seule, puis elle souffre beaucoup de cette solitude-là. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là qui montre des femmes à différentes époques et qui sont colorées. Par exemple, dans l'immeuble où vivent le couple là, avec Siméon et Madeleine, qui sont à Montréal, ben, il y a une espèce de concierge là qui s'appelle Reine l'Amoureux. Et puis l'édifice où il y a tous les appartements, ça s'appelle le Castel. Fait qu'elle, elle se prétend la reine du Castel. Et chaque fois qu'elle va voir Siméon en cachette pour jouer aux cartes avec lui, ben, elle va s'acheter une robe dans une boutique. Puis là, elle se met toute chic pour le séduire, pour être belle. Puis là, le lendemain, elle fait bien attention, elle la repasse et elle va la retourner disant qu'elle l'aime pas. Puis elle est remboursée, puis elle change de robe comme ça régulièrement. Donc, c'est comme une obsession. Il y a beaucoup de séduction aussi, de tentatives de séduction dans ce livre-là. Alors, c'est une belle histoire qui ressemble à celle qu'elle avait écrite dans les thèmes, dans la préoccupation, mais il est beaucoup question de la maladie, de la fin de vie. Puis cette fin de vie-là, chez le personnage principal, Siméon, fait penser à tous les autres. Là, ça leur donne un coup, puis ils se mettent à constater, est-ce que je fais la vie que je voulais? Et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers la vie que je désire depuis toujours? Alors, c'est une prise de conscience, on peut dire. Oui, c'est ça chez les personnages, essentiellement des personnages féminins. Et puis, il y a des beaux passages poétiques. Par exemple, Marine, l'enfant, raconte. Marine est née en pleine canicule parmi les caissettes d'annuel. À la manière des légendes, sa naissance se métamorphosait chaque fois qu'un de ses parents la ressassait. Ainsi, son père raconterait peut-être son histoire un jour comme une déferlante dans les tropiques de Saint-Félix-de-Valois, ce petit village de la Naudière. Un peu plus loin, je trouve ici, quand elle trouve qu'elle est enceinte, le ventre de Marine s'est mis à héberger un peut-être Robin. Elle l'appelle toujours comme ça son bébé, peut-être Robin, parce que ça, c'est pas le sexe. Ils ont donné ce nom à leur incertitude en attendant que l'idée se matérialise dans leurs bras. Quand même, Marine et Louis ont convenu que le petit logement ne correspondait pas aux forêts denses que suggérait un nom comme Robin. Entre la librairie et les trajets de Louis, ils ont trouvé un port d'attache qui n'était ni la grande ville ni la campagne. D'une oreille, on entendait le vrombissement des autoroutes. De l'autre, on percevait les oiseaux qui disputaient le boisé au bout de la rue. Donc, c'est là qu'ils vont s'installer, c'est là qu'ils se font construire une maison. Et ça ne sera pas facile parce que lui est toujours sur la route et elle, ben, elle va souffrir beaucoup de cette absence-là. Donc, les émotions, quand je dis qu'elles sont reliées à ce que vivent les personnages, il y a toujours la végétation, toujours les fleurs, les plantes qui sont partout. Et il y a un amour déçu chez Suzanne qui aimait un garçon du village et qui en préférait une autre. Et quand il a su que l'autre s'est marié, ben, il s'est enlevé la vie. Puis ça, à un moment donné, elle l'apprend que c'est volontairement qu'il est monté sur le toit en hiver alors qu'il y avait eu du verglas, puis il savait très bien ce qu'il faisait. Alors elle va dire, quand elle apprend ça, elle est très émue, « De l'autre côté de la rue, les pavots éclatent et les lys s'étiolent. Un coup de vent achève la mélanchier, dont les fruits roulent sur le sol. La beauté se suicide devant Suzanne et une armée d'oiseaux vient piller les restes. Son Joseph meurt une deuxième fois. » Alors, donc, elle avait appris qu'il était mort, mais elle croyait à un accident. Et là, elle vient d'apprendre que c'est parce qu'il aimait cette autre femme, donc qu'il ne l'aurait jamais aimée elle-même. Donc, elle vit deux fois le même deuil, mais c'est tout associé avec la nature qui meurt au même moment. Donc, c'est magnifique de lier toutes les fleurs, les plantes, les arbres, la nature, les éléments aux émotions des personnages.
Le titre est très bien choisi, en tout cas.
Oui, puis la page couverture est jolie aussi parce qu'on voit... On voit la salle de bain de Madeleine, où il y a tellement de plantes carnivores autour que c'est là aussi que choisit d'aller mourir le personnage. En tout cas, tout nous porte à croire qu'il s'est suicidé. Là. Alors, c'est symbolique en quelque sorte. Puis ce qui nous dévore, ben, c'est l'amertume, c'est les regrets, c'est ce qu'on n'a pas vécu qui nous dévore et qui nous empêche de bien vivre. Alors, en même temps, il faut montrer que le passé est derrière, puis il faut vivre le présent, puis essayer de mieux vivre. Donc, c'est une très, très belle histoire en petits chapitres, très courts à lire, qui se divise en trois parties dans le temps et qui offre à réfléchir en même temps que c'est une histoire qui tient de la légende, hein, parce qu'il y a des aspects là-dedans qui sont comme le monstre qui est dans le lac, là, bon, ben, ça fait penser au monstre du Loch Ness. Mm-hmm. Donc, on voit que cette fille-là aime les contes, aime les légendes, la poésie, le théâtre. Et il y a aussi un lien avec Le Roi Semeur de Ionescu.
Alors, ce qui nous dévore, on en a assez entendu pour avoir vraiment envie de découvrir ce roman. 163 pages aux éditions Tête Première par Marie-Hélène Sarrazin. Un grand merci, Anne-Marie Aubin.
D'accord, on se revoit plus tard. Hein,
oui, oui, on va se retrouver un peu plus tard au mois d'août et puis je vais lire certainement des livres que vous nous avez suggérés au cours de cette belle saison. Merci pour tout puis au plaisir de vous retrouver.
Merci. Moi, je serai là la semaine prochaine.
D'accord.
Au revoir.